quand tu regardes lui. Pas seulement croiser son regard.
Radio G, 101.5 FM.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
On ne peut pas savoir où on est ni où on va si on ne sait pas d'où on vient. Pas besoin d'être un grand savant pour s'intéresser à l'histoire, la géopolitique ou l'économie. Surtout quand c'est expliqué par une bande de profs d'histoire géo qui n'ont pas la langue dans leur poche. Des exposés parfois assez différents de ce qu'on nous dit à l'école et dans les médias dominants. L'histoire, la géopolitique et l'économie s'intéressent à vous. Intéressez-vous à elle les samedis à 12h sur Radio G avec Polémix et la voix off.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Pour les Grecs, la volonté ne peut pas se représenter. La volonté de quelqu'un ne peut pas se déléguer. On ne peut pas donner sa volonté et sa parole à quelqu'un d'autre. C'est le fameux principe d'Iségoria. Tout citoyen a le droit de parler, de proposer une loi. Parce qu'ils ont l'idée qu'en déléguant la parole, on a très vite fait de donner à l'autre le pouvoir de parler pour le peuple. La représentation, évidemment, va être une invention moderne de la démocratie dite moderne. L'élection comme pouvoir de consentir, on consent à donner notre pouvoir. Une fois qu'on a consenti à donner notre pouvoir, on est dépossédé de notre véritable pouvoir de décision. Donc la démocratie n'existe plus, puisque le pouvoir n'appartient plus au peuple, puisqu'il appartient à des représentants, certes élus, mais quand on voit ce que ça peut donner l'élection, donc voilà. Les catégories antiques ont été totalement déplacées dans notre démocratie dite moderne. Pour eux, l'élection n'est absolument pas démocratique, puisqu'on veut élire des élites, des compétents. Pour eux, c'est le tirage au sort qui est absolument démocratique.
Salut les amis, c'est JBD, c'est la voix off, avec aujourd'hui cette question. La démocratie est-elle démocratique ? La démocratie est-elle ce que nous croyons qu'elle est ? N'y aurait-il pas un quiproquo ? C'est en tout cas ce qu'analyse notre invité d'aujourd'hui, Norbert Lenoir, professeur de philosophie. Alors avant d'aller plus loin, quelques rappels de définition pour cette discussion. La théocratie, tout d'abord, est un gouvernement où le titulaire de la souveraineté le serait de droit divin. L'oligarchie est une forme de gouvernement où le pouvoir est détenu par un petit groupe de personnes qui forment une classe dominante. La ploutocratie est un système de gouvernement où la richesse constitue la base principale du pouvoir politique. Depuis la révolution bourgeoise de 1789, la France semble régie par ces deux derniers systèmes, une oligarchie élective contrôlée par les plus riches. On peut aussi évoquer la technocratie, système politique et économique dans lequel les techniciens et les technocrates ont un pouvoir prédominant. Et puis il y a la démocratie, du grec ancien démos, le peuple, et kratos, le pouvoir. Démocratie, terme qui désigne à l'origine un régime politique dans lequel tous les citoyens participent aux décisions publiques et à la vie politique de la cité. Mais Norbert va donc nous expliquer qu'il y a un malentendu autour de ce mot démocratie qui a changé de signification depuis qu'il a été inventé dans la Grèce antique par ceux qui, justement, critiquaient ce que nous appelons aujourd'hui démocratie. Et puis en plus de la notion de démocratie, nous aborderons aussi et surtout la notion d'isonomie, qui est en fait le mot qui conviendrait pour ce que nous comprenons, nous, aujourd'hui, quand nous parlons de démocratie. L'isonomie, règle d'égalité, est l'égalité civique ou politique apparue lors de la marche d'Athènes vers la démocratie. On interprète l'isonomie aujourd'hui souvent comme égalité de droit ou égalité devant la loi. La démocratie est-elle démocratique ? On en discute pendant une heure avec Norbert Lenoir. Bonjour Norbert.
Bonjour.
Alors Norbert, il est communément admis que la France serait une démocratie. Or, on sait que le très peu démocratique régime de président monarque de la Ve République est né dans le coup d'état militaire qui porte De Gaulle au pouvoir en 1958. Donc faut pas s'étonner qu'un régime politique accouché par un putsch fonctionne aussi mal.
Oui, tout à fait. Mais on peut remonter aussi cette quatrième république et la troisième république qui naît sur les morts et les cadavres de la commune. Ce mot démocratie, on vit à l'heure actuelle sur un, me semble-t-il, sur un paradoxe. Hein. La démocratie aurait triomphé, tout le monde se dit démocrate, plus démocrate que moi, tu meurs. Mais le paradoxe, c'est que ce mot de démocratie, il est très très ambigu en fait, parce que tout le monde se dit démocrate, mais dans le même temps, partout, même si on se limite en France, partout, l'égalité, la liberté, la justice sont menacées, limitées, voire détruites. Et ça, c'est le paradoxe moderne. Et ce mot de démocratie, c'est un signifiant flottant que l'on peut se coller à n'importe quoi, n'importe qui. Hein. Et je pense qu'il faut sortir ce mot de l'insignifiance. Et pour le sortir de l'insignifiance, il faut le replacer dans son histoire. Et cette histoire, il faut la mettre en correspondance avec l'Antiquité grecque. Et c'est très très important. C'est pas simplement de l'archéologie de la pensée. La démocratie, en fait, coïncide avec la naissance de la politique. Depuis toujours, il y aurait eu de la politique. Depuis toujours, il y aurait eu la démocratie. Non. Depuis toujours, oui, il y a eu du pouvoir. Ça, c'est clair. Mais en revanche, la démocratie, non. Et la politique, non. Encore une fois, il y a une correspondance entre la naissance de la politique et la naissance de la démocratie, me semble-t-il. Là, pourquoi ? La démocratie, c'est d'abord l'opposé de ce qu'on peut appeler la théocratie, c'est-à-dire le pouvoir divin ou un pouvoir absolu. Alors pourquoi ça, c'est important ? C'est que la démocratie naît du refus d'une fondation absolue. Le mot démocratie, c'est ça. Il n'y a pas de fondement absolu du politique. C'est pour cette raison que la politique, c'est l'art de la parole, de la discussion. Et là, il faut en passer par une opposition entre Platon et Aristote, on va voir pourquoi. Platon, lui, est un antidémocrate primaire, il refuse la démocratie au nom de la vérité. Malheureusement, dans l'histoire, Platon a triomphé. C'est-à-dire qu'ils prennent des décisions au nom d'un savoir. C'est la technocratie. Platon revendique, encore une fois, que le pouvoir doit être remis aux gens capables, c'est-à-dire aux gens qui posséderaient le savoir sur la société. La société, l'ordre social, relèverait d'un savoir économique, politique, qu'il faudrait mettre absolument en place. Le politique, pour eux, relève d'une pure technique et d'un pur savoir. Et là, Aristote répondra que la politique relève non pas d'un savoir, mais de la pure discussion. Plus on est nombreux à discuter, plus on est nombreux à prendre des décisions, plus la décision sera meilleure. Voilà. Ce qu'il faut relever, c'est que le mot démocratie dans l'Antiquité a été forgé par les antidémocrates. En fait, démocratie, c'est les critiques de ce régime, les critiques de la démocratie qui ont forgé le mot. Parce que, par exemple, les technocrates ou l'oligarchie, le pouvoir de quelques-uns, ou les plutocrates, c'est-à-dire les pouvoirs des riches, ont dit, en fait, nous, on n'est pas hypocrites, on revendique le pouvoir, on veut le pouvoir au nom de l'argent parce qu'on est le plus riche. On veut le pouvoir parce que nous, on est les meilleurs, aristocratie. Et bien vous, en fait, vous voulez pouvoir pour les plus nombreux. Donc vous êtes comme nous. Vous voulez du pouvoir. Ben vous voulez le pouvoir parce que vous êtes la foule. Donc on vous appelle démocrate. Comment s'appelaient les démocrates ? Le véritable nom de la démocratie, donc c'est pas démocratie, c'est l'isonomie. Isonomie, c'est la loi qui doit être la même pour tous. La démocratie, à l'origine, s'appelait isonomie. C'est pas simplement la même loi pour tous. C'est que la même loi est la même pour tous si tous font la loi. La démocratie, elle relève d'un scandale aux yeux de tous ceux qui veulent un titre à gouverner, un titre pour avoir le pouvoir. C'est pour cette raison qu'il faut ranger le démocrate dans du kratos, dans du pouvoir. Isonomie, il n'y a pas le terme de kratos, il n'y a pas le terme de pouvoir. C'est-à-dire, le scandale, c'est le n'importe qui. la revendication de l'isonomie, c'est qu'à partir du moment où la loi doit être la même pour tous, ça veut dire que tous doivent faire la loi, ou du moins tous doivent y participer. C'est-à-dire que à l'origine de l'isonomie, bon, appelons-la démocratie pour maintenant, parce que ce terme a été oublié, hein, la démocratie, c'est la revendication de l'égalité. Mais pas simplement l'égalité devant la loi, c'est l'égalité de faire la loi, de participer à la loi. C'est ça qui est absolument fondamental. Le scandaleux, c'est que le n'importe qui, c'est un pur scandale pour Platon. Et c'est un pur scandale, encore une fois, de nos jours, pour les défenseurs de l'oligarchie, du pouvoir de quelques-uns, ou de la technocratie, ce qui est la même chose. C'est ce scandale démocratique que n'importe qui peut, doit participer à l'édification de la loi. Et là, je ne citerai qu'une phrase d'Aristote. Le tirage au sort est par nature démocratique, l'élection est par nature aristocratique. C'est-à-dire que si on réanimait en quelque sorte notre démocrate de service, Aristote, il verrait dans nos régimes absolument pas un régime démocratique. Il verrait une aristocratie élective. Même pas une aristocratie élective. Parce que je rappelle que Aristote, ça veut dire les meilleurs. Donc là, quand on regarde notre personnalité politique, le meilleur, la compétente ultime, où est-elle? Il n'y en a pas. Moi, me semble-t-il qu'il n'y en a pas. Donc on peut appeler ça une oligarchie élective. C'est toujours le pouvoir de quelques-uns. Mais pourquoi dit-il, pourquoi pour lui le tirage au sort est-il démocratique et l'élection aristocratique? Je rappelle très très vite, il y avait trois pouvoirs essentiels dans l'Athènes du 5e siècle avant Jésus-Christ. Hein. C'est pas un modèle pour moi, attention, hein. Je dis pas redevenons grecs, hein, c'est pas ça du tout. Bon, mon analyse historique, elle est faite pour montrer encore une fois tous les décalages qui se sont produits dans l'histoire au sein de cette démocratie. Hein. Donc, l'Assemblée, elle était composée donc, de tous les citoyens. C'est-à-dire que n'importe quel citoyen pouvait participer à l'Assemblée. Qu'est-ce qu'on foutait à l'Assemblée? Tout. C'est-à-dire qu'on ne votait pas les lois, simplement, on les faisait. Et là, vu que c'était un régime isonomique, que l'égale participation, il y avait ce qu'on appelait un droit absolu. C'était l'iségoria. Alors l'iségoria, ce que ça veut dire, ça veut dire que n'importe qui levait la main, par les Grecs, voilà, par les Grecs, qui disaient dokémoi, dokémoi en grec, ça veut dire il me semble, mon opinion, hop, levait la main, il se levait et dit, voilà, il me semblerait qu'il pouvait proposer une loi. Hein. Donc c'était cette participation directe, donc il proposait sa loi, après elle était votée ou refusée. Donc ça c'est l'Assemblée, hein. C'est ce qu'on appelle le pouvoir législatif, mais c'est plus que ça, hein, puisque c'était les citoyens qui faisaient la loi, enfin la loi, mais aussi des procès. Le procès de Socrate il a été condamné par l'Assemblée des citoyens, donc c'est beaucoup plus étendu qu'un simple pouvoir législatif. Ensuite il y avait la boulée, c'est-à-dire le conseil c'était 500 membres. Alors quelles étaient les prérogatives de ce pouvoir, le conseil de 500 membres? Ils s'occupaient un petit peu de la politique étrangère, ils allaient signer des contrats d'échange, de commerce, ils recevaient les ambassadeurs, et ils préparaient aussi l'ordre du jour de l'Assemblée pour gagner du temps. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces membres n'étaient pas élus. Comment devenait-on boulotte, c'est-à-dire membre du conseil? Par le tirage au sort. Tous les deux ans, on renouvelait les conseils. Si on fait le calcul, il y avait à peu près 100 000 citoyens. Tous les deux ans, 500 membres, c'est-à-dire qu'évidemment, sauf si les pauvres qui mouraient plus tôt, mais tout citoyen avait quand même une chance d'accéder à cette magistrature suprême. Et c'est le tirage au sort. Quel est le principe? C'est qu'il n'y a pas de compétence exceptionnelle à avoir, si ce n'est l'amour pour la loi, l'amour pour l'intérêt général. C'était la seule compétence qu'il fallait. La seule restriction aussi, dans cette démocratie, c'est que étaient tirés au sort les volontaires. Voilà. Il y avait des volontaires, on disait, ben voilà, on va renouveler les membres du conseil qui se portent volontaires. Voilà. Bon. Et enfin, il y avait ce qu'on appelle les magistratures, qui dépassent évidemment le simple problème juridique. La plus haute magistrature, c'était le stratège, le chef de l'armée, par exemple, athénienne. Et là, on élisait. Là, il y avait l'élection. Il y avait l'élection parce que, comme le dit Aristote, c'est aristocratique. C'est-à-dire que là, pour faire la guerre, on ne veut pas une truffe, on veut le meilleur chef de guerre. Et là, on élit sur une compétence. C'est la compétence qui est en jeu. Donc, on va élire aux yeux des citoyens le meilleur stratège. Après, le meilleur chef économique pour traiter de l'argent. Voilà. Là, c'est l'élection. L'élection est élitiste. On veut élire, encore une fois, le meilleur, le plus compétent dans tel ou tel domaine.
Précision, Norbert, dans cette démocratie athénienne, tout le monde ne vote pas. Les femmes, les esclaves.
Non, bien sûr, ça va de soi. Bon, les esclaves ne votent pas, les femmes ne votent pas. Il y a des comédies qui ont été écrites, d'où, quand même, qu'il y a une grande liberté d'expression en Grèce. Il y a des comédies d'Aristophane qui s'appellent l'Assemblée des femmes. Le retournement de l'Assemblée, c'est les femmes qui prennent le pouvoir à l'Assemblée. Encore une fois, dans mon propos, ce n'est pas un modèle. C'est pour montrer que les catégories antiques ont été totalement déplacées dans notre démocratie dite moderne. Pour eux, l'élection n'est absolument pas démocratique. C'est-à-dire que la logique même de l'élection n'est pas démocratique, puisqu'on veut élire des élites, des compétents. Pour eux, c'est le tirage au sort qui est absolument une dynamique démocratique. Cette démocratie donc, ne repose pas du tout sur l'élection. L'élection n'est absolument pas centrale, mais elle est périphérique. Elle va porter sur des magistratures, certes importantes, mais qui ne représentent pas le cœur de la politique démocratique. Le cœur de la politique démocratique, c'est l'idée d'une démocratie participative. C'est-à-dire que la notion de représentation n'existe pas. Le mot représentation n'existe pas en grec. On ne peut pas représenter le pouvoir. Il ne peut pas y avoir de citoyens qui représenteraient d'autres citoyens. Parce que pour les Grecs, la volonté ne peut pas se représenter. La volonté de quelqu'un ne peut pas se déléguer. On ne peut pas donner sa volonté et sa parole à quelqu'un d'autre. C'est, encore une fois, le fameux principe d'Iségoria. Tout citoyen a le droit de parler, mais parler au sens propre, c'est-à-dire de proposer une loi. Parce qu'ils ont l'idée que, évidemment, en déléguant la parole, on a très vite fait de donner à l'autre le pouvoir de parler pour le peuple. C'est ça l'idée qui est chez les Grecs. C'est pour cette raison que la représentation n'existe pas. La représentation, évidemment, va être une invention tout à fait moderne, de la démocratie dite moderne. Alors, pour sauver le soldat de la démocratie moderne, et c'est toute l'ambiguïté de la démocratie moderne, il va y avoir cette invention de l'égalité. Alors là, le changement de l'égalité va apparaître en 1789, l'égalité avec les fameux droits de l'homme. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Bon, alors je brûle les étapes. En politique, ça va être l'invention de un homme égale une voix. C'est-à-dire que là, l'égalité, elle est sur le plan politique. Tout homme doit avoir la possibilité d'avoir une voix politique, c'est-à-dire de pouvoir voter. Alors pourquoi l'élection devient-elle première? Parce que c'est par elle que les citoyens vont pouvoir élire et intervenir dans la cité. Mais, tout le problème est là, le citoyen moderne, quel est le pouvoir qu'il possède? Ben, c'est plus un pouvoir de décision. Il y a une fracture au sein des démocraties modernes. Le citoyen moderne va avoir, via l'élection, un pouvoir de légitimation. Moi, je dirais même pas de légitimation. Il va consentir. Grâce à l'élection, il donne son consentement à ce qu'un autre agisse et veuille pour lui. Mais il a perdu son pouvoir de décision. Il n'intervient plus dans la politique.
Alors Norbert, là, si on peut revenir un petit peu en arrière, parce qu'on allait un peu vite là, de 1789 à nos jours, sous la Première République, seuls les hommes riches votaient. C'est ce qu'on appelait le suffrage censitaire, comme le préconisait l'abbé Sieyès. Le suffrage universel masculin n'apparaît que ponctuellement et avec des restrictions de 1848 à 1852 sous la Seconde République et ne sera institué que sous la Troisième en 1875. Puis on rappelle dans la foulée que les femmes françaises n'accèdent au droit de vote qu'en 1944, notamment grâce au rôle qu'elles ont joué dans la résistance. Mais pour en revenir à 1789, c'est une révolution bourgeoise assez défavorable au peuple et qui engendre un régime où seuls votent les gros bourgeois.
Tout à fait. Hein, c'est, là, encore une fois, en 89, je brûle un peu les étapes. Il va de soi que, tout de suite, le suffrage n'a pas été, évidemment, universel. C'est-à-dire que là, ce terme de démocratie, derrière, il y a toujours des luttes. Il y a toujours des luttes politiques. Il y a, bon, dans l'Antiquité, on l'a vu, il y a la lutte qu'on retrouve de nos jours, mais sous d'autres formes, évidemment, la lutte entre ceux qui défendent un pouvoir aristocratique et un pouvoir démocratique, isonomique. Et évidemment, dans la Révolution française, on a toujours cette lutte, ceux qui revendiquent le pouvoir du n'importe qui va être animé par les sans-culottes, hein, par exemple, hein, et qui vont défendre donc une réelle démocratie à travers aussi les sections, une démocratie beaucoup plus directe, et qui va donner en 1917 aussi les soviets, les conseils, et le suffrage censitaire, et évidemment, c'est pour mettre un frein à ce pouvoir du n'importe qui. Le n'importe qui, c'est-à-dire, dans l'expression de l'époque, c'est le gueux, quoi, d'accord ? Il faut absolument pas que le gueux puisse intervenir dans le champ du politique. Hein. Donc c'est là, le grand obstacle à l'intervention, ça va être l'argent, le sens. Le sens, il faut payer un sens qui correspondait à, évidemment, une somme astronomique pour un pauvre et qui ne pouvait évidemment pas se l'offrir. Hein. Il y a toujours, encore une fois, ce refus du scandale démocratique, c'est-à-dire refuser que tous puissent intervenir dans le champ politique. C'est pour cette raison qu'on a une invention notoire, le système représentatif. Et le système représentatif qu'on nous vend comme étant la meilleure façon d'approcher la démocratie directe qui serait impossible, et donc le meilleur moyen possible, ça serait d'avoir une démocratie indirecte via la représentation. C'est ce qu'on nous dit. Hein. Le peuple ne peut pas intervenir directement, il ne peut pas agir directement, mais il va agir par l'intermédiaire de ses représentants, c'est-à-dire les députés. Et si on refait l'histoire un petit peu de cette démocratie représentative, ben, c'est une autre histoire que l'on peut découvrir. C'est-à-dire que, y compris pour ceux qui ont inventé la démocratie représentative, cette démocratie représentative, pour eux, n'a jamais voulu dire démocratie. La représentation, elle a été inventée justement pour empêcher le peuple d'intervenir. Et cette histoire, et on la retrouve aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a une opposition, un conflit qui va naître entre ce qu'on appelle les fédéralistes et les antifédéralistes. Là, c'est deux conceptions, non pas de la démocratie, mais deux conceptions de la politique qui se mettent en place. Hein. Alors, Madison, fédéraliste, le grand théoricien du gouvernement, voilà, eux, au moins, ne sont pas hypocrites. Madison n'a jamais employé le mot « démocratie représentative ». Il a parlé de « gouvernement représentatif ». Pour lui, la politique moderne doit se fonder sur la représentation. Voilà ce qu'il dit, je citerai cette citation de Madison, qui a participé à l'écriture de la Constitution américaine, qui va être votée, qui est toujours en vie aux États-Unis. Le peuple doit être totalement exclu en sa capacité collective de toute participation aux décisions du législateur. Je répète, le peuple doit être totalement exclu en sa capacité collective de toute participation aux décisions du législateur. Donc, ils défendent la représentation, non pas au nom d'une démocratie qui serait indirecte, mais d'un autre type de gouvernement. C'est-à-dire, oui, il y a des élections, mais ces élections, elles doivent, dans le même temps, priver le peuple de tout pouvoir d'intervention, de tout pouvoir de décision. Une fois élu, le représentant, entre guillemets, a la totalité du pouvoir et le peuple n'en a plus. Ça, il me semble que c'est absolument important à souligner et à saisir. Hein. Voilà. Celui qui reprendra cette idée en France, c'est le grand constitutionnaliste Seyès. Seyès, lui aussi, dit qu'il faut former un type de régime, le gouvernement doit reposer sur une profession, sur des professionnels, sur une profession particulière, dit-il. Tous ces théoriciens partent de l'idée que le peuple, en lui-même et par lui-même, n'est absolument pas compétent pour les choses politiques, pour prendre des décisions. Je redonnerai une citation là de Sieyès. Voilà ce qu'il dit. C'est pour l'utilité commune que les citoyens nomment des représentants plus capables qu'eux-mêmes de connaître l'intérêt général. Très très important ça. C'est pour l'utilité commune que les citoyens nomment des représentants plus capables qu'eux-mêmes de connaître l'intérêt général. Là encore une fois, on a cette idée qui est toujours, 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 toujours présente. Hein. C'est ce qu'on appelle les technocrates. Les technocrates, c'est ça la technocratie. Hein. Le pouvoir de ceux qui savent et des prétendus compétents. Pourquoi ? Parce que le peuple n'a aucune compétence. Il faut laisser les compétents gouverner. Ce qu'on appelle démocratie représentative, en appelant démocratie représentative, on masque la véritable logique de la représentation. C'est-à-dire de couper, de faire une fracture entre l'élection comme pouvoir de consentir, on consent à donner notre pouvoir. Et une fois qu'on a consenti à donner notre pouvoir, on est dépossédé. C'est une dépossession, en fait. On est dépossédé de notre véritable pouvoir de décision. Donc la démocratie n'existe plus, quoi, en fait. Hein, puisque le pouvoir n'appartient plus au peuple, puisqu'il appartient à des représentants, certes élus. Mais quand on voit ce que ça peut donner l'élection, voilà.
Alors Norbert, est-ce qu'il y a eu dans l'histoire des moments ou des sociétés où a été expérimentée une authentique démocratie ?
La démocratie, elle arrive par effraction dans l'histoire, toujours. Enfin, quand je parle de démocratie, je parle entre guillemets de l'authentique, c'est-à-dire d'inclure, de faire participer tous, non, mais le plus grand nombre. C'est-à-dire de redonner du sens à cette idée que le n'importe qui peut intervenir. Hein ? Il y a eu, bon, alors je ne vais pas remonter au déluge, mais il y a eu quand même des exemples dans l'histoire. Il y a eu la Commune de Paris, la raison aussi pour laquelle elle a été massacrée dans le sang. Il y a eu, jusqu'en 1924, les Soviets, en ex-URSS. C'est très, 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 très limité. Alors, dans l'Antiquité, il y a eu, hein, à Rome aussi, qui a donné l'existence aussi d'un pouvoir qui s'appelle le tribunat. Mais c'est vrai que c'est par éclair. Et ça retombe très très vite dans le... voilà. N'y a-t-il pas des possibilités pour donner un mode d'intervention ? Bien sûr qu'il y en a. Sous le régime macroniste, il y a eu une intervention des citoyens, bon, qui a tourné court, mais sur le climat. Il y a eu des citoyens, donc justement tirés au sort, qui ont fait des propositions, bon évidemment, des propositions entre guillemets révolutionnaires ont été mises sous le boisseau. Mais oui, il peut exister des modes d'intervention via, justement, le tirage au sort. Ça peut, et ça devrait être beaucoup plus étendu. Encore une fois, à partir du moment où on a un régime, pour moi, c'est une oligarchie élective. Hein, on reçoit l'onction du suffrage universel pour, évidemment, faire tout autre chose. Bon, c'est pour cette raison aussi que le Parti Socialiste s'est dissous. Et on a eu récemment l'élection de président avec l'étiquette Parti Socialiste qui voulait faire la guerre à la finance. Hein.
Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
Le supposé socialiste François Hollande, pendant sa campagne de 2012, qui, une fois élu, a arrosé le patronat français de dizaines de milliards d'argent public, détruit le code du travail, fait réprimer des gens qui ont manifesté contre cette casse sociale, sans parler des plaisanteries douteuses de Hollande, hein, qui appelait les pauvres les sans-dents. Sinon, il paraît qu'Hollande était de gauche et socialiste.
Ouais, c'est ça. Le problème, c'est ça, c'est que pendant 5 ans, le peuple n'a plus aucun pouvoir, si ce n'est un pouvoir extra-parlementaire. Donc, les manifestations, la rue, les gilets jaunes, le dernier en date, la manifestation du n'importe qui doit intervenir et qui pourrait intervenir, les gilets jaunes, à travers le RIC.
Donc le RIC, référendum d'initiative citoyenne, notamment réclamé par les gilets jaunes.
qui ne sont pas des inventions, mais qui sont des héritages historiques de tous les mouvements révolutionnaires, y compris les sections durant la Révolution française. Il faudrait, encore une fois, réfléchir à tout et à mettre en place cela, puisque maintenant, la politique aussi essaye de, non pas de court-circuiter, mais d'enlever tout pouvoir, par exemple aux syndicats, c'est ce qu'on appelle donc, les contre-pouvoirs ou les pouvoirs de proposition. C'est ça qui est intéressant.
En Norbert, l'actuel régime politique français, dirigé par les forces de l'argent, semble finalement assez peu démocratique. Et on pourrait même un peu rigoler quand des dirigeants français se permettent de donner des leçons de démocratie à d'autres pays.
Oui, tout à fait. Bon, mais ça, c'est un discours purement idéologique et qui masque. Bon, et encore une fois, c'est pas propre à la France. Hein. La première puissance guerrière, c'est les États-Unis. Et leur guerre en Irak, en Afghanistan, c'est qu'ils allaient évidemment exporter la démocratie. Bon, mais ça, c'est évident que. On critique évidemment la Russie ou Kadhafi ou sur des régimes qui ne sont pas démocratiques. Bon, ils ne sont pas démocratiques, mais les nôtres ne le sont pas non plus. Je l'ai dit, c'est des oligarchies électives. L'égalité, la liberté, la justice dans notre propre pays sont vraiment absolument restreintes. Hein. L'égalité est tout à fait restreinte. L'égalité devant le soin, l'égalité devant l'éducation. Mais en croire les propos de Macron, il veut quasiment privatiser l'enseignement supérieur, augmenter les droits d'entrée à l'américaine. L'Amérique, la plus grande démocratie.
Ah oui, c'est un cliché des journalistes de présenter les USA comme la plus grande démocratie du monde, ce qui techniquement est faux, hein, puisque la plus grande démocratie par le nombre d'habitants, c'est l'Inde. Puis bon, quand on voit les dysfonctionnements de l'empire états-unien qui colonise la planète, quitte à mettre en place et à soutenir des dictatures un peu partout. Or, la démocratie, c'est pas seulement le vote, c'est aussi, par exemple, l'accès pour tous aux soins médicaux, mais aussi à la culture et à l'éducation, ce qui n'est pas du tout le cas aux USA, où les études coûtent horriblement cher, tout comme la santé.
Tiens, Proudhon disait « Démocratie, c'est démopédie ». Ah, il invente un néologisme, démopédie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'une réelle démocratie, c'est l'égalité. Pour moi, l'origine, c'est l'isonomie, l'égalité. Mais c'est pas l'égalité devant la loi, c'est pas simplement c'est machin mou, on est tous égaux parce qu'il faut respecter la loi. Enfin, ouais. Non, l'égalité, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est l'égalité d'accès à, pouvoir accéder à. Eh bien, Proudhon a raison. C'est pouvoir accéder à l'éducation, à la culture, gratos, gratuitement. Aux États-Unis, c'est pas le cas. Pour accéder à une bonne université, il faut payer très très cher. Et c'est pour cette raison qu'il y a 8 millions d'étudiants.
Donc 8 millions sur une population états-unienne d'environ 330 millions d'habitants en 2021.
8 millions qui sont surendettés. C'est-à-dire qu'ils vont sortir avec leur diplôme et ils vont mettre au moins 20 ans de leur vie à rembourser le crédit pour leurs études. Est-ce que ça, c'est une démocratie ? Bien sûr que non. Je ne parle pas évidemment du scandale d'accès aux soins aux États-Unis. Parmi les morts, malheureusement, du Covid, il y a eu une surmortalité aussi, ça on en parle très peu, aux États-Unis du fait de qu'ils ne pouvaient pas accéder aux soins, ils ne pouvaient pas payer. Voilà. Hein. Évidemment que nos systèmes ne sont pas démocratiques de ce point de vue de l'égalité d'accès et évidemment aussi de la liberté. Mais tiens, je disais technocratie. Pourquoi on est privé de notre pouvoir de décision ? On est totalement privé. Non seulement on ne décide plus, mais non seulement on ne peut pas avoir le pouvoir dans l'Antiquité. On faisait une loi. On voyait que cette loi ne marchait pas ou avait des effets inégalitaires. Hop, on la défaisait. Quelqu'un levait la main, donc est mort, hop, cette loi est une catastrophe. Qui vote pour hop, et on l'a bougé. Tandis que là, on ne peut pas. Premier scandale. Deuxième scandale, ils ne prennent même pas les décisions, eux, les soi-disant compétents, ils les font prendre via des cabinets de conseil, McKinsey, etc. McKinsey aussi donne des conseils pour l'OMS.
OMS, Organisation Mondiale de la Santé.
la mise en place des consignes et des conseils pour le Covid venait de McKinsey. Certains ONG ont demandé à l'OMS et aussi au gouvernement français de dévoiler quels étaient les conseils que McKinsey et d'autres ont donnés. Qu'a répondu l'OMS ? Secret d'affaires. On ne peut pas, secret d'affaires. La loi, elle est là, totalement non démocratique. On ne sait pas, la loi nous empêche de savoir quelle était fondamentalement la nature, le détail de tous les conseils donnés au gouvernement français, à l'OMS pour le Covid. Secret d'affaires, ça sent les affaires. C'est-à-dire quand on sait que McKinsey aussi conseillait le groupe qui a fait le vaccin Pfizer, était conseillé par McKinsey. Un sacré mélange qui fait de l'ombre à la démocratie. C'est le problème, semble-t-il, qu'il est quand même un petit peu essentiel, quoi, dans ces prises de décision et dans cette dépossession de notre pouvoir et cette captation du pouvoir par, non pas simplement par certains, mais par des intérêts économiques qui sont évidemment énormes, quoi. Il me semble que quand même que le peuple, que n'importe qui, n'importe quel citoyen ou n'importe quel ONG, enfin bref, et après qu'ils mettent sur les réseaux, puissent avoir, obtenir le détail des conseils que McKinsey a donné au gouvernement français, ça me semble le béaba d'une démocratie, de la transparence, puisque ça nous concerne.
Et on repasse donc par la notion de ploutocratie. Alors Norbert, une solution authentiquement démocratique consisterait-elle à tirer au sort, dans le peuple, des gouvernants qui resteraient en place un temps limité et qui seraient révocables s'ils ne convenaient pas?
Oui, ben, évidemment, j'en ai pas parlé. La révocabilité, ben évidemment, la révocabilité. C'est tout à fait important qu'un député puisse être révocable et aussi, évidemment, des mandats qui ne soient pas renouvelables. Autre scandale, le cumul des mandats. C'est un double scandale. Il y a un cumul dans l'espace et dans le temps. Le cumul dans l'espace, un même individu peut être maire d'une très grande ville et sénateur. Quand on est maire d'une très grande ville, déjà avec tous les problèmes qu'il puisse y avoir dans une grande ville, on a vraiment un emploi du temps très très chargé. Hein? Là, donc, ils peuvent cumuler deux charges électives. Mais le plus grand scandale, me semble-t-il, c'est le cumul dans le temps, c'est-à-dire qu'on peut être quasiment être député à vie. C'est-à-dire que là, il faudrait quand même un renouvellement du personnel politique. J'en reviens, ça un peu décousu, j'en reviens à l'histoire de la démocratie. Aux États-Unis, j'avais dit qu'il y avait deux camps qui s'affrontaient, j'ai parlé des fédéralistes, mais il y a aussi les antifédéralistes qui se sont appelés du nom de Brutus. Le fameux fils Tucoco Emifili, toi aussi mon fils, l'assassin de César. Et eux défendaient quoi ? Un gouvernement représentatif, ok. Mais ils avaient une théorie qu'ils appelaient la théorie miroir d'une assemblée. Alors la théorie miroir, c'est-à-dire qu'il fallait inventer des procédés par l'élection, proportionnelle. C'est-à-dire que l'assemblée devait être quand même le miroir de la société. Si on applique ce principe à l'Assemblée nationale française, l'Assemblée nationale n'est pas du tout le miroir de la composition sociologique de la France. Il y a, je crois, même pas 1% issus du monde ouvrier. Scandale. Comment peut-on voter des lois si la composition sociologique des métiers et des conditions sociales n'est pas présente dans l'Assemblée, au sein de l'Assemblée nationale? Ah, il y a une surreprésentation des métiers absolument lucratifs. Autre vice démocratique, du moins pour la France, c'est que l'Assemblée nationale est tout à fait sans pouvoir. L'Assemblée nationale quasiment ne sert à rien, tout le monde le dit, c'est une simple chambre d'enregistrement. L'Assemblée nationale ne fait plus les lois. Les lois, elles sont faites soit par des directives européennes, soit par le gouvernement. Le gouvernement n'est pas un pouvoir exécutif en France. Le gouvernement est le pouvoir législatif. C'est ça le problème. Les lois sont faites, rédigées par le gouvernement et enregistrées par l'Assemblée. L'Assemblée, encore une fois, n'a plus aucun pouvoir, si ce n'est de voter des lois faites par le gouvernement.
Donc même question que tout à l'heure, serait-il plus démocratique de tirer nos dirigeants au sort, dans le peuple, pour une durée limitée, avec possibilité de les révoquer ?
Oui, ça serait plus démocratique, mais moi j'irais plus loin. Aussi, il faudrait qu'il y ait des décisions qui soient prises localement. Il faudrait qu'il y ait une démocratie locale. Par exemple, il y a un philosophe trop peu utilisé qui s'appelle Henri Lefebvre, philosophe marxiste. C'est lui qui a théorisé le droit à la ville. Il faudrait que aussi localement, des habitants d'une ville aient leur pouvoir sur leur propre ville. Par exemple, si on veut créer une autoroute ou une voie rapide en plein centre-ville, moi je suis à Marseille, évidemment que la décision, elle ne revient pas aux habitants qui vont habiter à proximité. Donc là, il faudrait réimplanter la démocratie de façon tout à fait locale. Donc de donner un pouvoir d'intervention aux habitants de la ville et un droit de pleine participation. Le problème, c'est que la démocratie, on la définit trop sous l'angle de politique. Il faut repolitiser la démocratie. C'est-à-dire que là, on interroge trop la démocratie dans le sens politique, on va élire un président, Non, la démocratie, elle doit être aussi au sein de, localement. Qu'est-ce qui est local ? Où on habite et où on travaille. C'est-à-dire que la démocratie, évidemment qu'elle devrait aussi être dans les entreprises. C'est-à-dire que là encore, on est en pleine quasi-monarchie au sein des entreprises. C'est-à-dire que c'est le patronat ou le patron ou le PDG qui décide de tout. C'est-à-dire les syndicats n'ont quasiment aucun pouvoir de décision et ni évidemment les employés, ouvriers ou cadres. La démocratie, pour moi, elle doit se décliner dans tous les lieux où il y a du pouvoir. Le pouvoir, c'est quoi ? C'est de pouvoir, évidemment, agir sur des conduites. Et bien, si on agit sur des conduites, on peut réagir à ces conduites. Et c'est ça. Encore une fois, la démocratie, elle a lutté pour justement limiter le pouvoir de quelques-uns sur les autres. À partir du moment où certains exercent un pouvoir sûr, il faut toujours qu'il y ait des contre-pouvoirs sur ce pouvoir sûr. Et c'est-à-dire pour transformer le pouvoir sûr en pouvoir avec. Agir avec les autres. Et c'est ça une réelle démocratie pour moi. C'est-à-dire diffuser la démocratie dans tous les lieux où il y a du pouvoir. Au sein d'une cité, donc que ça soit un village, une petite ville ou une ville, avoir une démocratie, c'est-à-dire avoir une participation aux décisions au sein d'une entreprise. Bon, c'est plus le cas dans l'université, au sein d'un lycée, voilà. C'est ça une véritable démocratie, c'est une diffusion, une dissémination de la prise de décision, de la participation à la décision. Non pas centraliser le pouvoir, mais le décentraliser, mais encore une fois, décentraliser dans tous les lieux de pouvoir. Donner du pouvoir, encore une fois, à tous par rapport évidemment à leur lieu d'intervention, à leur lieu de travail, à leur lieu d'habitation. La démocratie, pour moi, elle est là, quoi.
Alors, voir aussi la démocratie sous l'angle du local, de la proximité et du quotidien répond partiellement à la question que j'étais en train de me poser au sujet du tirage au sort. Parce qu'avec le tirage au sort, on prendrait aussi le risque de tirer au sort un véritable crétin, un nuisible. Mais s'il s'agit de démocratie et de vie locale, il y a en fait peu de chances que le crétin choisisse qu'une autoroute traverse son jardin, à moins qu'il ne soit vraiment stupide ou corrompu. Mais si le tirage au sort est une voie intéressante, il implique malgré tout que les gens soient libres et éclairés, donc éduqués. Parce que sinon, confier le pouvoir à des imbéciles tirés au sort reviendrait en fait à confier un revolver chargé à un chimpanzé. Alors, que les citoyens soient libres et éclairés. La question étant évidemment de savoir qui éduquerait qui.
Non mais on est d'accord, mais justement là je reprends cette belle expression du moins de Proudhon, quoi. Démocratie aussi, c'est démopédie, c'est la possibilité aussi d'exercer un pouvoir avec, c'est-à-dire de discuter avec, d'avoir des lieux, des centres, de discussion, de débat, d'exposer avec des gens et pas qu'à l'école. Ben, je sais bien que ça sent une totale utopie, mais oui. Quand je dis que l'égalité, la liberté est atteinte, y compris dans l'éducation, c'est clair que toute la déconstruction absolue qu'on a connue de l'enseignement durant ces 5 ans, c'est absolument consternant, quoi, et terrifiant à la fois, quoi.
La voix off.
Et une polémique.
Que faisiez-vous ?
Il s'agit d'un trucage.
Odieux.
Française, français. Je mens avec détermination. Au peuple français, je mens sans faiblir. C'est ainsi. Ce soir, c'est à vous tous que je mens. Et je veux vous dire merci. Merci du fond du cul. Et merci à mon adversaire, Madame Le Pen. Aimons Le Pen. Merci. Pétain, à l'issue d'une longue confrontation démocratée, vous avez choisi de m'accorder votre confrage. Et je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude. Je vous oublierai tous. Françaises, Français, vive l'anarchie, vive la France.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Quelques heures plus tard, la vérité éclate. Il s'agit d'un trucage.
Et avec qui ?
La voix poste.
Et une polémique.
Norbert, au moment où on se parle, là, on est après le deuxième tour de cette élection présidentielle de 2022. Donner le choix aux gens de voter entre la peste et le choléra, ça fait pas très démocratique. Quel est ton regard sur la situation politique française en ce printemps 2022?
Ok, docteur, merci pour ta question. on peut répondre que les grands médias à forte audience ont dit que cette élection était tout à fait démocratique. Les profs de Sciences Po attitrés vont dire qu'effectivement, bien sûr, elle est démocratique. Et il y a eu une élection, il y a eu un élu qui a été élu à une majorité de 58%. Donc le décor théâtral de la démocratie représentative a été respecté. On peut y souligner qu'il y a eu quand même 28% d'abstention et je crois 2, ou 6, enfin j'ai les chiffres quelque part, de vote blanc. Donc ça fait un peu plus de 30% de gens qui ont refusé donc de choisir. Je voudrais juste tirer un petit enseignement politicien pour rester un tout petit peu dans l'ambiance des plateaux télé style Sciences Po. Quand même, il y a un enseignement que l'on peut tirer avant de développer le fait qu'il y a une aberration démocratique. Vraiment, ma visée, mon but, c'est de déclarer qu'il y a une aberration démocratique qui est tout à fait visible. C'est quand même que les deux partis de droite qui ont gouverné la France depuis des décennies ont été totalement laminés. Alors j'entends parler le parti de droite, le parti LR et le PS. Le parti LR a été laminé parce que enfin, ce qui s'est vu, c'est sa contradiction interne, la contradiction interne de ses électeurs. Une grande partie des électeurs ont voté Macron et l'autre ont voté Le Pen ou Zemmour. Et pour le PS, à force d'usurper ce mot de socialisme et de mener une politique de droite qui a enfanté Macron, il faut peut-être justement arrêter de se payer de mots. Et donc les vrais socialistes, alors là je parle des militants, les vrais socialistes ont sûrement choisi de voter pour des candidats un peu plus à gauche. Et donc par vrais socialistes, évidemment, j'entends pas les classiques du Parti Socialiste tels que Guigou qui va peut-être sûrement être nommé ministre par Macron. Là, il y a une clarification un petit peu salutaire. Les masques ont été un petit peu jetés, quoi. Mais je reviens à l'essentiel, c'est qu'il y a véritablement donc une aberration démocratique. C'est-à-dire que ce système représentatif, et là on y est quoi. C'est-à-dire que là, ce qui a sombré totalement, dans ce deuxième tour, même le premier, c'est la notion de peuple. Parce que pour qu'il y ait démocratie, il n'y a pas que ce mot de pouvoir qui flotte en l'air, il y a le peuple. Le peuple, on l'a dit, c'est à la fois en principe une force de légitimation du pouvoir et une force aussi de constitution du pouvoir, de proposition. On l'a vu dans l'histoire, petit à petit c'est effacé, mais qui ressurgit sous des formes, gilets jaunes ou autres. Ce peuple, force constitutive et de proposition, ressurgit de temps en temps. Il y a une exemple par éclipse. Mais on se dit, quand même, il nous reste la puissance de légitimation. Même là, cette puissance de légitimation du pouvoir a totalement sombré le 24 avril. Pourquoi ? Là, je reprends encore des chiffres. Il y a 38, 41, c'est plus de 35% des électeurs de Mélenchon et idem pour Roussel qui ont voté Macron. Je ne m'interroge pas sur leur motivation, respect du chef, de la parole du chef, peur effective, réelle, qui est pour moi absurde, d'une victoire de Le Pen. Bon, ça ne m'intéresse pas. Je m'intéresse aux faits bruts. 41% de l'électorat guillemets de gauche, enfin, qui est certainement plus à gauche que évidemment l'ex-parti socialiste, qu'il faut appeler PPM, hein, petit parti macroniste maintenant, ils ont voté pour un homme qui va réaliser une politique totalement contraire au programme que leur candidat soutenait. On est dans une totale absurdité. Le peuple, en tant que les puissances de légitimation, ils légitiment, par leur vote, le contraire politique. C'est-à-dire, encore une fois, quelqu'un qui va continuer à détruire l'État social. Je pense que cette élection, justement, nous appelle à dissocier ce que on associe l'élection, la représentation et la démocratie. Je pense que là, il faut faire éclater cette association. Et il faut les dissocier. Et il faut rappeler, encore une fois, ce qu'on avait dit, hein, que élire, c'est toujours une élite. Si on associe ces trois termes, élection, représentation, démocratie, on aura toujours, toujours, démocratie, le choix d'un petit nombre par le grand nombre. Ce qu'a montré aussi donc, ce deuxième tour, c'est que 30% à peu près, hein, 30% du corps électoral n'a pas pu être justement représenté par la logique majoritaire. Donc, on pourrait dire que cette logique majoritaire, c'est pas une logique élective, c'est une logique éjective. Elle a été créée pour éjecter la puissance populaire de proposition et de légitimation. Deuxième argument contre ce système soi-disant représentatif, ce système ne joue absolument pas une logique représentative puisque 30% des gens attachés à une politique beaucoup plus proche des intérêts du peuple, des intérêts populaires, d'un état social, de protection sociale, de droits sociaux, hein, ont été empêchés quasiment de voter. Mais il y a un autre vice de la représentation, c'est la représentation médiatique. C'est-à-dire qu'une réelle démocratie a besoin d'une scène. Le peuple a besoin d'apparaître quelque part, sur une scène médiatique. Alors évidemment, il y a eu une absence totale de débat. On a trouvé des raisons, hein, on occulte. Hein. Les raisons, c'est le Covid, c'est la guerre, c'est bref. Qui sont des raisons évidemment tout à fait fausses et fallacieuses. Mais aussi, on a parasité cette élection, comme toujours, en créant des problèmes artificiels de second ordre. On a évidemment le second tour, on a à la fois diabolisé Le Pen, hein, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas évidemment la diaboliser, mais ce n'est pas ça le problème. Hein. Ici, vous m'avez compris. Et surtout, on a créé évidemment des pseudo-problèmes pour empêcher l'apparition des vrais problèmes sociaux et des problèmes de classe. C'est-à-dire que 70% du temps d'antenne a été occupé par l'immigration, l'insécurité, pas évidemment la véritable insécurité sociale, l'absence d'état de droit. Hein. Et là, donc, il y a une structure du champ médiatique par les grands propriétaires, hein, Bolloré, Niel, Arnaud, enfin bref. Bon, sauf Bolloré, qui était le partisan de Zemmour. D'ailleurs, pour ceux qui ont la possibilité de lire le New York Times, avant les élections, il y a eu un excellent article dans le New York Times, donc il faut lire la presse américaine, qui dénonçait justement la mainmise de l'élection par les millionnaires français qui ont créé et qui financent, pour eux, c'était deux grands candidats, Macron et Zemmour. C'est-à-dire que là aussi, le peuple doit devenir irreprésentable. Voilà. Hein, cette logique, hein, du deuxième tour, pour moi, on peut l'analyser dans cette logique. Le peuple soumis, massacré par toutes les décisions néolibérales, ne doit plus apparaître sur la scène. Donc, il est inutile de le représenter politiquement. Et aussi, tous les problèmes qu'il a lui-même politisé à travers les manifestations, merci le Covid, hein, qui a évidemment arrêté les manifestations contre les retraites, enfin bref, hein, les gilets jaunes, hein, qui ont politisé un certain nombre de problèmes, ça, dans la campagne, on n'en a jamais parlé. Alors, donc, oui, vaguement, de façon politicienne, on parle du pouvoir d'achat, enfin, qu'est-ce que ça veut dire, enfin, un mot assez général, mais dans le second tour, n'ont absolument pas été thématisés les problèmes des inégalités sociales. Voilà. En fait, la représentation ne tient que par ce fait de l'irreprésentabilité. Il faut que le peuple soit irreprésentable et que donc ne doivent être représentés que des intérêts de classe et des classes aisées. Hein, parce que bon, on sait par qui a été élu Macron, Il a été élu essentiellement par les riches, gens aisés, très aisés, et par les retraités, c'est-à-dire quasiment par les inactifs. C'est quand même aussi un grand paradoxe, quoi. Celui qui fait l'éloge, enfin qui n'a jamais travaillé, enfin, si ce n'est 4 ans de sa vie, celui qui fait l'éloge du travail, des chefs d'entreprise, de l'esprit d'entreprendre, enfin de la réactivité, enfin tous ces discours, ces concepts du management, a été élu en très très grande majorité par des inactifs.
Norbert, on a au cours de cette émission déjà évoqué le tirage au sort. Est-ce qu'il y aurait d'autres pistes de réflexion pour cheminer, j'allais dire vers la démocratie, enfin l'isotomie, enfin bon bref, pour qu'on vive mieux politiquement?
Oui, alors là, je vais faire deux réponses très brèves. Il y a des réponses institutionnelles, c'est-à-dire donc évidemment un changement de constitution, mais pas que. Voilà. Il faudrait accepter aussi l'idée que la démocratie ne repose pas simplement sur le grand principe qu'on prête à Montesquieu, mais c'est pas vrai, mais passons, de la séparation des pouvoirs. Moi, je suis favorable, avec d'autres, hein, sur le principe qu'on peut appeler de la dispersion du pouvoir, de la multiplication des lieux de pouvoir. C'est-à-dire qu'encore une fois, la démocratie n'est pas simplement un lieu gouvernemental. Il faut se sortir de cette idée que les espaces démocratiques sont à construire, et dans le monde du travail, c'est, encore une fois, ça c'est, pour moi c'est important, dans tous les milieux du travail, dans l'enseignement, dans les entreprises, il faudrait qu'évidemment que le peuple, les travailleurs aient une possibilité d'être, non pas simplement consulté, Macron c'est le grand consultateur, il consulte, mais en fait les décisions sont déjà prises, hein, mais fondamentalement de pouvoir avoir le pouvoir de décider, voilà. Donc disperser le pouvoir. Et là, j'en reviens aussi à ma notion de peuple, voilà. Parce que le peuple, dans la représentation, le peuple, c'est quoi? Ben, le peuple, c'est pas grand-chose, en fait. Le peuple, ça serait un corps qui existerait avant l'élection, et on demanderait une voix. Et cette constellation de voix créerait des majorités, alors une majorité présidentielle, un président. Non. Le peuple n'existe pas avant. Le peuple se constitue pendant les prises de dossiers, pendant les prises de décision, en constituant des assemblées. Ça renvoie, encore une fois, à la nature même de la démocratie, qui est une logique d'autoconstitution. Le peuple s'autoconstitue en prenant des décisions sur un problème particulier dans une usine. Quoi produire, comment produire, avec combien d'heures par semaine, par mois, par... D'accord ? On parle de la proportionnelle, ça y est, même Macron s'y met. Bon, évidemment qu'il va faire une proportionnelle qui ne va pas faire quoi que ce soit, une proportionnelle homéopathique. J'ai des chiffres, là. Je rappelle, en 2017, LRM avait 350 sièges. Moi, je m'intéresse à la gauche. PS, 45. LFI, 27. S'il y avait eu une proportionnelle intégrale, donc je répète, 350 les macronistes. Proportionnelle intégrale, il tomberait à 249. Ça fait 100, moins de moins quand même. Et 51 PS et 66 LFI. Voilà. Et LFI, c'était 27. Quand même, ça change un tout petit peu la donne. Est-ce la solution? Non, mais ça y participe un tout petit peu. Parce que pour moi, la démocratie, ce n'est pas simplement une affaire institutionnelle. Hein. Voilà. C'est une affaire, encore une fois, d'autoconstitution du peuple par lui-même, au sein donc, d'assemblées, qu'il crée lui-même, mais aussi il y a un peuple démocratique s'il a un contrôle sur le gouvernement. Bon, c'est pas propre à Macron, hein, mais là encore, il y a eu deux immenses scandales d'État, et il faut le dire, les institutions ont fait leur boulot, c'est-à-dire le Sénat a fait son boulot, a fait des rapports. Le premier scandale, c'est Benalla, il y a eu un rapport qui a démontré absolument la faute impardonnable de l'Élysée. Est-ce que ça a été suivi des faits? Absolument pas. Et dernière en date, évidemment, les affaires de McKinsey qui nous a coûté quelques milliards. Rapport absolument dévastateur. Suivi des faits? Non, bien sûr que non. Donc, je pense qu'il faut repenser la démocratie en essayant encore une fois de dissocier élections, représentation et démocratie à travers cette logique d'une dispersion du pouvoir, d'une démultiplication des lieux de pouvoir, qui soient des lieux de véritables participation et non pas simplement de représentation du peuple.
Et voilà les amis, c'est ici que prend fin cette conversation avec le philosophe Norbert Lenoir, qu'on remercie. Nos émissions sont en écoute et téléchargeables sur notre site Polémique, c'est la voix off, où il est aussi possible de s'abonner au podcast. On se retrouve très prochainement sur cette même radio libre. Ce n'est qu'un combat, continuons le début. Salut.
Radio G. www.radio-g.fr. Le Labo des Savoirs, l'émission qui explore tous les champs de la science et invite les chercheurs au microscope.